Pour les non-initiés, le dimanche des rameaux, ça sonne quand même un peu fête du printemps. Si les gens ne savent pas de quoi il s'agit, ben, ils vont s'imaginer que le dimanche des rameaux, on coupe une branche de forsythia, de magnolia avec les fleurs dessus, et puis on est content parce que la vie reprend. Peut-être que c'est ça le dimanche des rameaux pour beaucoup de gens, et qu'il nous appartient d'expliquer à celles et ceux qui nous entourent ce qu'est le dimanche des rameaux. Merci à Asia et Estelle pour cette lecture qu'ils nous ont faite de l'évangile de Matthieu, qui nous montre que les rameaux, c'était une coutume, un geste que les gens faisaient pour souhaiter la bienvenue et honorer une personne qui venait d'une manière particulière. Il n'y avait pas que les rameaux, on aurait pu dire que c'était le dimanche des vêtements aussi. Aujourd'hui, on ne ferait pas ça. Je veux dire, si je me vois mal pour souhaiter la bienvenue à par exemple, à Madame le maire qui vient ici, j'enlève ma veste, je la jette devant elle, je marche dessus. Ça. Elle va dire, mais la coutume a vraiment changé. Hein, où on couperait les branches du sapin. Et, oh non, ça ne se fait plus du tout. Mais c'était ça, le geste, c'était, on avait quelqu'un qu'on voulait honorer et on faisait ça. Je ne vous dis pas l'état des palmiers après, à l'entrée de Jérusalem, il va leur manquer beaucoup de rameaux. Ça montre que les gens à Jérusalem ont accueilli Jésus avec joie. Ou alors c'était la foule, il est question des gens qui marchaient devant lui et derrière lui aussi, hein, dans le texte que vous nous avez lu. Il pouvait y avoir aussi la foule qui venait de Galilée. Des gens qui venaient de Galilée et qui étaient tout contents d'arriver à Jérusalem avec le maître, avec le rabbi, qui faisait son entrée royale dans la ville du roi. Si l'on veut accueillir Jésus comme roi, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre seulement. Ce n'est pas là, à l'entrée de Jérusalem, nous le savons très bien, puisque nous connaissons la suite. Ce n'est pas à l'entrée de Jérusalem que va se jouer la royauté de Jésus. Ce n'est pas dans ses rameaux jetés à terre en signe d'honneur pour lui ou ses vêtements que va se jouer la royauté de Jésus. Il va devoir s'agir d'une vraie rencontre avec lui, un face-à-face, sans foule, sans phare. Les évangiles nous racontent de telles rencontres. Elles nous révèlent un bel éventail des différentes attitudes humaines quand on se retrouve face au roi qu'est Jésus. Alors vous avez des gens qui font bonne figure, ou qui veulent faire bonne figure, comme Zachée par exemple, qui dit « Non mais moi je rembourse quand j'ai eu une erreur, je suis honnête, essaye de se montrer. » Cet homme, vous savez, qui était monté sur un arbre parce qu'il n'arrivait pas à voir Jésus, que Jésus repère et lui dit « Je veux aller chez toi. » Et là, Zachée s'explique, parce qu'il savait que les gens le regardaient de manière négative, vu le métier il collectait les impôts pour les Romains, c'était très mal vu. Alors Zachée va, devant ce grand rabbi juif, va se justifier. Peut-être que nous, si tout à coup Jésus rentrait dans cette salle, on irait le voir. « Bon alors tu sais, moi vraiment je donne à l'Église, hein, vraiment. Est-ce que nous aurions cette attitude-là si tout à coup Jésus venait à Mulhouse ?» En chair et en os. Ou alors, nous pourrions bomber le torse et être comme cet homme qui priait dans le temple, qui disait « Voilà, heureusement que je suis dans ton peuple, ô Dieu !» C'est Jésus qui raconte cette histoire rapportée par l'évangile de Luc. Peut-être que certains d'entre nous ferions les fiers devant Jésus en disant « Ouais, t'as vu, si l'Église tient, c'est grâce à moi !» Oh, bien sûr, nous pourrions être aussi comme l'autre homme de l'histoire que Jésus raconte dans l'évangile de Luc, qui se tenait au fond du temple, qui se tapait sur la poitrine et qui disait « Franchement, Seigneur, j'ai fait des bêtises, je ne suis pas digne de toi, je te demande pardon. » Pour y avoir cette attitude-là aussi. Nous pourrions avoir cette attitude que la femme samaritaine a eue au bord du puits, à dire, dis donc Jésus, au fait, c'en est où là? Il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Vous, les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, mais nous, on adore en Samarie. Et cherchez à comprendre d'une manière honnête, pure, et accepter aussi ce que Jésus dit de nous, d'elle, puisque Jésus lui a dit des choses qui n'étaient pas forcément très positives, mais elle l'a bien pris, cette femme samaritaine racontée par l'Évangile, enfin, dont le récit est dans l'Évangile de Jean. La seule rencontre qui vaille avec Jésus est celle du cœur. Pas de façade, pas de foule, pas de phare, mais le cœur. Bien sûr, nous avons raison de fêter le dimanche des Rameaux, de nous souvenir que Jésus a été accueilli à Jérusalem, mais ça ouvre la semaine de Pâques. Nous savons ce que nous fêterons vendredi, enfin fêter, commémorerons vendredi prochain. Nous savons ce que nous fêterons dimanche prochain. Nous avons raison de nous souvenir de la naissance de Jésus. Nous avons raison de nous souvenir de l'ascension de Jésus. Nous avons raison de fêter Pâques, Pentecôte aussi, l'ascension, Noël, toutes ces fêtes, et sans doute d'autres encore que j'oublie. Oui, nous avons raison. Mais la vraie rencontre de Jésus, avec Jésus, c'est pas là. C'est quand je suis tout seul. Quand tu es toute seule. Et que là, tu te laisses interroger par le roi. Ne soyons pas des chrétiens deux fois par an, une fois à Noël et une fois à Pâques. Ou alors si, tenez, deux fois par an, une fois de janvier à juin et l'autre fois de juillet à décembre. Je vous propose, à l'occasion de ce dimanche des Rameaux, un texte qu'on n'a sans doute pas l'habitude de lire, le dimanche des Rameaux. C'est un texte de l'évangile, de la première épître, pardon, de Jean. C'est un texte qui nous appelle à l'honnêteté. C'est un texte qui nous appelle à une vraie rencontre avec Dieu, sans phare, sans façade, sans fête. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Je vais le lire. Le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons, il y a trois fois cette phrase, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Deuxième, si nous disons, le deuxième et le troisième sont assez cousins. Hein. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. Troisièmement, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Hey, on se donne des airs de bons élèves. Hein. Ici, l'apôtre Jean nous dit, si tu dis que tu n'as rien fait de mal, tu fais Dieu menteur. Il nous appelle à l'honnêteté. L'apôtre Jean, dans son épître, faisait face à des courants de pensée qu'il serait utile de décrire dans d'autres circonstances. Si on était plutôt en étude biblique, c'est très intéressant, les courants auxquels qu'on voit déjà apparaître dans le Nouveau Testament. Mais nous allons aller plutôt à cet exercice d'honnêteté que nous pouvons vivre aujourd'hui. Si je dis « je suis proche de Dieu », si je dis « je ne fais pas de mal », si je dis « je n'ai pas de reproche à me faire », alors la rencontre avec Jésus risque d'être compliquée. Et pourtant, on a tous réagi comme ça. Moi, le premier. Cette tendance naturelle à dire « moi, j'ai rien fait là ». On sourit de ce que les enfants disent quand l'assiette est tombée par terre et s'est cassée en mille morceaux. « Ah, mais j'ai rien fait ». Mais on voit que même les adultes se livrent à ce jeu, et parfois dans des circonstances terribles, en refusant d'admettre qu'ils ont fait le mal. Ce qu'on dit quand on est face à des gens qui ne viennent pas à l'église, par exemple, qui se disent soi-disant non-croyants, ce qu'on a envie de dire, c'est tu es bien sûr que tu rencontres le roi ? Si tu prétends venir comme ça devant lui, si tu prétends que tu crois en Jésus sans venir rencontrer son peuple. Il faut dénoncer des gens pour le mal qu'ils font. Il faut dénoncer les mauvais comportements qu'ils ont et que nous avons. Il faut reconnaître que nous sommes loin d'être parfaits. Je ne suis pas en train de vouloir nous faire descendre, nous humilier, nous culpabiliser à outrance. Mais l'apôtre Jean signale quand même qu'il y a cette tendance à ne pas reconnaître les progrès que nous avons à faire. Nous pourrions avoir des réactions pharisiennes devant les autres, reconnaître, pointer du doigt les attitudes des autres. Nous pourrions nous dire « mais moi, je suis tellement meilleur que tel et tel qui ne viennent pas à l'église, qui ont une mauvaise attitude ». Souvenons-nous que les pharisiens eux-mêmes recherchaient la pureté, recherchaient l'obéissance à la Bible, à la Torah, et que ce sont ces mêmes pharisiens que Jésus a vertement repris parce qu'ils faisaient porter aux autres des fardeaux qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à porter. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, dit l'apôtre Jean, nous nous égarons nous-mêmes. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres. Ce matin, vous avez prié, nous avons prié. Cette semaine, nous avons lu un texte, des textes de la Bible. Nous nous sommes laissés interpeller par telle prophétie, par tel psaume, par tel discours de Jésus, par tel enseignement de Paul. Cette semaine, nous avons prié Dieu qu'il nous conduise à mettre en pratique ce que nous avons lu. Cette semaine, à notre travail, nous avons pris soin d'être honnêtes dans nos déclarations de frais, par exemple. À notre travail, nous avons refusé les avances d'un ou d'une collègue. Au volant, nous avons fait attention à ne pas rouler trop vite, aux piétons. Avec nos voisins, nous avons eu de bonnes discussions. Nous avons cherché de cette manière à plaire à notre Dieu, au sein de notre famille aussi, ou parmi nos amis. Face aux tentations qui ont croisé notre route, nous avons pensé à l'Esprit Saint qui est en nous et qui se laisse attrister lorsque nous chutons. Cette semaine, nous avons sans doute livré un vrai combat contre les idées noires, contre la violence, contre l'orgueil et tout ce qui relève des œuvres du diable. Si ce que je viens de vous dire reflète, fait écho à ce que vous avez vécu pendant cette semaine, alors oui, peut-être que nous pouvons dire « nous sommes en communion avec lui et nous n'avons pas marché dans les ténèbres ». Mais que veut dire d'ailleurs « marcher dans les ténèbres » sinon, c'est un peu du jargon de la Bible, hein, « agir sur le mal qui est en nous », laisser agir le mal qui est en nous, autour de nous. Si cette semaine, j'ai regardé 3 films et pris le temps, et pas pris le temps d'ouvrir ma Bible, si ma vie de prière s'est résumée à « merci Seigneur pour ce repas lorsqu'il y avait mon plat préféré au restaurant d'entreprise », si ma réputation dans le voisinage est d'être un homme à histoire ou une femme hypocrite, si au volant j'ai roulé trop vite, Si mes relations avec les gens sont troubles, charmeuses, manipulatrices, alors oui, il faut que je le dise. Je marche dans les ténèbres. J'ai beau faire des prières le dimanche matin au culte, chanter, avoir un service dans l'église peut-être même. Mais si c'est plutôt ça le portrait qui me caractérise, alors oui, je marche dans les ténèbres. Et je fais partie de ces gens à qui Jean a écrit « Si tu dis que tu es en communion, comme tu le dis le dimanche matin, mais qu'en fait, pendant la semaine, tu marches dans les ténèbres », je reprends l'expression du verset 6, « alors tu es menteur ». Et imaginons que Jésus, puisque nous célébrons sa venue à Jérusalem, que Jésus vienne à Mulhouse. Je ne sais pas où il irait en premier, mais imaginons qu'il passe par ici aussi. Qu'est-ce que nous lui dirions ? Est-ce que nous lui dirions, « Seigneur, moi, je suis en communion avec toi » ? Ou est-ce que nous oserions lui dire, lui avouer, « Seigneur, j'ai quand même plutôt marché dans les ténèbres. » Et puis, il y a la deuxième interrogation de Jean, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, même dans une semaine de lumière, même si nous sommes en communion avec Dieu, même si le portrait que j'ai fait en premier nous reflète vraiment, même si on n'a pas, on a tué personne cette semaine, quoi. C'est bien, j'ai pas péché, j'ai tué personne. J'ai eu envie, certes, mais ah ben oui, mais si t'as eu envie, Jésus est clair là-dessus, hein, je crois. Si tu as eu envie de tuer quelqu'un, c'est comme si tu l'avais tué. Sauf que pour la personne concernée, ça, c'est quand même beaucoup mieux que. Autrement dit, même le plus parfait, le chrétien, la chrétienne le plus en communion avec Dieu, ne va quand même pas pouvoir dire « j'ai pas péché ». Alors encore une fois, vous êtes en train de vous dire « Jean-Marc n'a pas le moral en ce moment quand même, hein, parce qu'il nous dit « t'as péché ». Non, il faut simplement dire que les gens parfaits ou qui prétendent l'être n'ont aucune marge de progression, parce qu'ils sont déjà tout en haut, à leur idée, hein. Tandis que nous, si je dis « bon, là, j'ai pas été trop mauvais », il faut savoir dire quand on a réussi des trucs quand même, hein. « J'ai pas été trop mauvais, c'est génial, j'ai passé une bonne semaine, c'était chouette, j'ai eu des bonnes réactions à mon travail, mais bon, ça veut quand même pas dire que j'ai été parfait. Et peut-être il y a, quand je fais le bilan de telle ou telle journée, un point qui pêche un peu quand même. » Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. On a une tendance naturelle à dissimuler le mal que nous avons fait. C'est tout à fait naturel. La preuve que c'est naturel, et depuis longtemps, c'est que c'est décrit dans le livre de la Genèse. Le récit de la chute est là pour nous le dire. Quand Adam s'est caché, quand il s'est caché aussi derrière Ève, puisqu'il l'a accusé. Il s'est caché même derrière Dieu, puisqu'il a dit « c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a provoqué ma chute ». Adam s'est caché, et ensuite, il a fallu s'habiller, enfin, toutes sortes d'enseignements dans ce récit qui nous montrent ce que nous sommes aujourd'hui. Nous cachons aussi. Il y a aucun moment où, moi qui vous parle, j'ai envie de vous dire « j'ai fait une bêtise ah !» et le dire fièrement. Ça ne marche pas comme ça. Les enfants nous l'enseignent parce qu'on voit, on voit dans leur jeu. Mais ce jeu-là, nous le jouons aussi devant Dieu et devant les uns devant les autres. Pourtant, Jean répète que Dieu sait écouter nos aveux et il ne nous rejette pas. C'est tellement apaisant de pouvoir arriver devant Dieu et de dire « Seigneur, là, je n'ai pas été bon. » Là, j'ai besoin que tu me pardonnes. Là, je ne cherche même pas d'excuses. J'étais un gros nul. J'ai péché. Pardonne-moi. C'est ce qui est écrit. Hein. Si nous reconnaissons nos... Alors, ce n'est pas le même vocabulaire. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera nos péchés. Dieu, quand il s'approche de nous, n'abuse pas de sa puissance. Il la met au service de la vie, parce qu'il est le Créateur, le Dieu de la vie, et sa puissance est une puissance de vie. Il a la puissance, non pas de nous écraser, oui, si, de nous écraser, il aurait, mais il a une puissance plus forte encore, c'est celle de nous relever. C'est facile de mettre quelqu'un à terre. C'est tout un travail de l'aider à se relever. Ce que Dieu fait, c'est qu'il nous aide à nous relever lorsque nous arrivons devant lui. Dieu sait écouter nos aveux et on n'a pas besoin d'avoir peur. Si je viens devant lui avec honnêteté. Et c'est là où je reviens à cette image du Jésus qui rentre à Jérusalem. Il n'y a plus la place pour la fête. Il n'y a plus la... Oui, la fête, c'est toujours bien la fête. Je suis loin d'être contre. Mais à un moment donné, il faut se présenter seul devant Jésus. Aujourd'hui, ça veut dire prier. Et dire et faire un point de situation. Jésus nous pardonne. Faisons-lui confiance. Puis nous serions bien bêtes d'essayer de lui cacher nos problèmes. Dans le livre de la Genèse, Dieu parcourt le jardin et appelle Adam. Mais il savait où il était. Est-ce que vous croyez vraiment que lorsqu'on se présente devant Dieu, on va avoir quelque chose dans le dos, disant « bon, ça, je ne vais pas lui en parler, parce que quand même mieux s'il ne le sait pas. » Ça ne marche pas. Dieu sait écouter nos aveux et il sait voir nos réussites et nos échecs, même si on ne lui en parle pas. Je préfère parler à Dieu de mes échecs, parler à Dieu de mes chutes. Je préfère que ce soit sur la table avec lui et recevoir sa bienveillance, recevoir son pardon. Je préfère faire ça maintenant plutôt que de traîner, d'attendre le soir de ma vie et puis d'être plein de regrets. La lumière, parce que Jean parle de la lumière, le message que nous avons entendu de lui, c'est que Dieu est lumière. La lumière ici n'est pas une lumière qui éclaire seulement la façade. Vous connaissez, je pense, ces illuminations de Lyon qui ont lieu à Noël, non pas à Pâques, où les façades deviennent des écrans avec des illuminations magnifiques. Dieu ne nous éclaire pas comme ça, même si ça c'est très beau. Dieu nous éclaire à l'intérieur. Il éclaire, il fait du bien, il apporte sa grâce. Il nous réconcilie avec lui, il nous apaise, il nous redonne du courage. Il débusque les ombres aussi, il permet de résoudre les problèmes. Quand vous avez un médecin qui prend une petite lampe pour éclairer le creux de votre oreille, par exemple, l'oreille, comment on dit, l'oreille moyenne, l'oreille... Enfin, ce qu'on ne voit pas dans le miroir, surtout dans le miroir, parce qu'il faut avoir un miroir de côté. Vous n'êtes pas inquiet, vous dites, il va voir ce qu'il y a. Ben, c'est pareil pour Dieu. La lumière de Dieu, il va voir ce qu'il y a. Donc, je vais pouvoir me présenter devant lui avec honnêteté. Quand je vous disais tout à l'heure que la seule rencontre de Jésus qui vaille, c'est celle du cœur. Faisons preuve de cette honnêteté devant Dieu. Ouvrons-nous à lui sans pudeur. Parlons à cœur ouvert. Ne taisons ni nos douleurs, ni nos hontes, ni nos espoirs, ni nos regrets, ni nos frustrations, ni nos péchés, ni nos questions, ni nos révoltes. Jésus vient à nous. Jésus vient vers nous de cette manière-là. De manière à ce que nous puissions lui parler. Avec ce Jésus qui vient vers nous, dans la foi en lui, notre vie vaut la peine. Notre vie a un avenir. Nous ressentons la sécurité qu'il y a à vivre auprès dans la foi en Dieu. Nous nous attachons au bien. Nous sommes habités pleinement par son esprit. Nous sommes enfants de Dieu, enfants de lumière. Devant lui, on peut être soi-même. Et surtout dire ce qui ne va pas, en toute sécurité. Alors voilà, Jésus vient à Jérusalem. Mais il n'y a pas qu'à Jérusalem qui vient. Il y a aussi dans nos cœurs, il y a aussi dans nos vies. Comment on va l'accueillir? Est-ce que on va chanter? On va, et c'est très bien de chanter, j'ai chanté tous les chants. Est-ce qu'on va faire la fête? Puis après passer à autre chose? Non, demain. Demain, il faudra l'accueillir seul, comme le roi qui vient à toi. Et mardi aussi. Et la suite, de même. C'est là que se jouera la royauté de Jésus dans ta vie. C'est là que tu accueilleras vraiment ce Jésus dans ta vie. Si tu veux qu'il règne sur toi, si tu veux qu'il règne dans ta vie. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ce récit de la fête des rameaux, du dimanche des rameaux, qui nous rappelle que Jésus vient. Et Seigneur, c'est en même temps un peu troublant de savoir que Jésus vient à moi, que je peux être en relation avec toi, avec Jésus. Cette foi, Seigneur, qui nous rapproche, ça fait trembler, ça donne le vertige, puis en même temps, ça nous rassure terriblement. Et je te prie que chacune des personnes ici trouve cette rencontre sincère, bienfaisante avec le Christ. Que tout le monde dans cette salle comprenne qu'il y a tant à gagner à se rapprocher de toi, à te laisser venir sans et à être sans façade, sans faire semblant, sans être bons élèves, mais à être nous-mêmes. Seigneur, donne-nous cette semaine d'avoir ces rencontres-là avec le Christ. Amen.